Europe Midi. Alexandre Lemaire.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Il est midi et demi. Il a égalé le record olympique Jean Quincampoix en or au tir et une médaille de bronze en équitation avec l'équipe de France de concours complet. Pas de vacances pour Emmanuel Macron, pas de vraies vacances en tout cas. Les hôpitaux sous pression face à la quatrième vague du Covid. Depuis le fort de Brégançon, le chef de l'État se poste sur Instagram pour répondre aux questions des Français sur la vaccination. Vous l'entendrez. 102 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints en 2020. Gérald Darmanin fixe de nouveaux objectifs de lutte aux policiers et gendarmes. Explication de Marion Dubreuil à suivre dans ce journal. Les pompiers du Sud-Est en alerte. Le risque d'incendie atteint son niveau le plus élevé. Une dizaine de massifs forestiers sont déjà fermés au public. Les bombardiers d'eau prêts au décollage. Et puis l'invité d'Europe Midi, les abandons de chats et de chiens battent des records cet été. Les refuges sont saturés. Je recevrai Jacques Charles Fonbonne, le président de la SPA.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le soleil levant nous a apporté une brillante nouvelle ce matin en provenance des JO de Tokyo, brillante comme la médaille d'or de Jean Quincampoix, sacré champion olympique de tir, Corinne Boulou.
Oui, Jean Quincampoix est l'homme fort du tir rapide mondial. Après sa médaille d'argent à Rio en 2016, il vient de réaliser son rêve, se hisser sur la plus haute marche du podium olympique dans une discipline qui sort de l'anonymat lors de chaque JO. À 25 ans, il a résisté à la pression d'une finale qu'il a dominée avec beaucoup de solidité et d'assurance pour s'imposer posé devant un Cubain et un Chinois, le fruit de son expérience et des victoires acquises ces derniers mois par le champion olympique Jean Quincampoix, interrogé sur France Télévisions.
Voilà, ça fait 5 ans que je travaille dur pour venir chercher cette médaille d'or. Donc ça a vraiment été une satisfaction, un soulagement d'avoir gagné l'or aujourd'hui. Et je suis vraiment extrêmement heureux d'avoir remporté de cette manière la médaille d'or. Oui, on pourrait croire que c'est facile et que ça s'est déroulé comme sur des roulettes, mais voilà, c'était vraiment très dur en émotion. Donc c'était vraiment dur de rester concentré, de rien lâcher sur chaque balle, chaque dixième de seconde pour à chaque impact faire mouche, quoi. Donc ça a vraiment été difficile en émotion, mais bon, voilà, à force d'en avoir fait des finales et d'avoir travaillé, j'ai réussi aujourd'hui.
Jean Quincampoix, sacré au pistolet 25 mètres, offre à la France sa 6e médaille d'or. Et à 25 ans seulement, il sera un client au doublé olympique aux Jeux de Paris en 2024.
Et l'équitation vient d'apporter à la France une 23e médaille. Il y a juste une demi-heure, Corinne.
Oui, une médaille de bronze par équipe en concours complet pour Nicolas Touzin, Karim Lawag et Christopher Six. C'est une belle médaille, même si la France était championne olympique en titre en arrivant à Tokyo. Tout simplement parce que c'était une équipe remaniée en raison d'une cascade de forfaits liée à la blessure ou à la maladie de ses chevaux.
Et en revanche, grande déception ce matin en gymnastique.
Oui, puisque Samir Aït Saïd, l'un des porte-drapeaux de la délégation française, a terminé au pied du podium de la finale des anneaux, 4e, remportée par un Chinois. À noter enfin les qualifications en quart de finale des équipes féminines de handball et de basket dans leurs tournois olympiques respectifs.
Corinne Boulou du service des sports d'Europe 1. N'oubliez pas, à 13h, votre rendez-vous avec les JO. Club Tokyo, présenté par Lionel Rousseau. Sur le front du Covid, la pression continue de s'accentuer dans les hôpitaux français. Plus de 7 500 patients à l'hôpital selon le dernier décompte. Face à ce rebond préoccupant sous l'effet de la haute contagiosité du variant Delta, Emmanuel Macron met ses vacances en mode pause. Depuis le fort de Brégançon, le chef de l'État, t-shirt noir face caméra, s'adresse aux Français sur Instagram, prêt à répondre à vos questions. L'objectif est inchangé, inciter à la vaccination.
Depuis le début de l'été, nous entendons beaucoup parler de la quatrième vague et de la seule arme que nous avons face à elle, le vaccin. Au moment où je vous parle, il y a un peu plus de 42 millions de Françaises et de Français qui ont reçu une injection de vaccin. Et il y a un peu plus de 35 millions d'entre nous qui avons reçu les deux doses et qui sont donc dûment vaccinés, complètement vaccinés. Je sais que pourtant, beaucoup parmi vous s'interrogent encore, ont peur. Beaucoup entendent de fausses informations, de fausses rumeurs, parfois n'importe quoi, il faut bien le dire. Alors, j'ai décidé de répondre directement à vos questions. Allez-y, posez-les-moi et j'essaierai d'être le plus direct et le plus clair possible.
Voilà, le chef de l'État Emmanuel Macron ce matin depuis le fort de Brégançon sur Instagram. Le pass sanitaire à l'essai sur la côte Fleurie en Normandie. Son extension doit encore être validée ce jeudi par le Conseil constitutionnel. Mais depuis le 25 juillet, la nouvelle mesure est expérimentée dans les bars et restaurants de 11 communes du littoral normand. Une semaine plus tard, voici l'heure d'un premier bilan pour les cafetiers et restaurateurs. Et c'est loin d'être parfait. Une semaine de couac, de clients perdus, d'incompréhension. Océane Théard s'est rendue au restaurant L'Atelier à Trouville.
Déjà plus d'une semaine que Scott Métainier a accroché cette ardoise sur la porte de sa brasserie.
Merci de préparer votre passe à présenter à votre serveur.
Pourtant, cela fait déjà quelques jours que ce gérant ne vérifie plus les passes sanitaires à l'entrée. La faute, d'après lui, à des consignes floues de la préfecture.
Au départ, on disait clairement que les gens ne pouvaient pas les recevoir si leur passe sanitaire n'était pas valide. Et après, au final, on a appris qu'on n'était pas obligé de refuser les gens. Au contraire, on n'avait même pas le droit de les refuser. En plus, les gens ne comprennent pas parce qu'ils viennent un jour, on les refuse. Le lendemain, on les prend. Au final, même si leur test n'est pas valide ou quoi que ce soit. Donc les gens n'y comprenaient plus rien comme nous.
Une expérimentation qui coûte cher dans une saison déjà plombée par le Covid. À l'heure du coup de feu, la salle de restaurant est quasiment vide.
Clairement, on a eu un gros manque de clientèle suite à ça. On a une mauvaise météo. Le Covid, en plus de tout ça, clairement pour nous, c'est catastrophique.
Pourtant, côté client, on sort son pass sanitaire de bonne grâce.
Mon pass qui est bien enveloppé dans une très belle pochette.
Comme Geneviève et Catherine qui sirotent leur cocktail.
Le pass est ma liberté.
Nous, on le fait surtout pour les autres, parce que moi, personnellement, ça me gonfle. Mais bon, moi, je le fais pour les autres.
Après cette expérimentation, le pass sanitaire devrait être demandé dans tous les bars et restaurants du pays à partir du 9 août.
Un reportage d'Océane Théard pour Europe 1 à Trouville. La lutte contre les violences conjugales est l'une des grandes causes du quinquennat. En 2020, 102 femmes ont perdu la vie sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. La délégation d'aide aux victimes vient de publier son bilan annuel des morts violentes au sein du couple. Et le nombre de féminicides a baissé entre 2019 et 2020, Marion Dubreuil.
Oui, c'est en moyenne un décès tous les trois jours. C'est une baisse notable par rapport à 2019 où on dénombrait 146 féminicides, soit un décès tous les deux jours. Pour les associations de protection des femmes, c'est l'un des résultats de l'importante campagne de communication, notamment pendant le confinement, pour mieux sensibiliser sur la question, mieux protéger les femmes dès les premiers signaux d'alerte avec des plateformes d'écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans le détail, on apprend qu'un quart de ces féminicides surviennent dans le cadre d'une séparation non acceptée. La majorité des faits ont lieu au domicile de la victime ou de l'auteur. Et une femme sur 5 avait déposé plainte. C'est un pourcentage constant par rapport à l'an dernier. C'est là où il reste une marge de manœuvre importante pour mieux protéger les femmes qui se sont signalées.
Ouais, justement, Marion, le ministre de l'Intérieur annonce dans Le Parisien que les plaintes pour violences conjugales seront désormais traitées en priorité.
Oui, devant les plaintes aux biens, devant les atteintes aux biens comme les vols ou les cambriolages, c'est une réalité de terrain. Aujourd'hui, les interventions pour différents familiaux sont le cœur de métier des policiers et gendarmes. Près de 400 000 interventions l'an dernier et deux fois moins de procédures judiciaires. Cela veut dire que dans un cas sur deux, il n'y a pas eu de suite judiciaire. Gérald Darmanin veut y remédier. Il veut encourager le recueil de plaintes ou le signalement au procureur. Il annonce la création de 16 nouvelles brigades de protection de la famille. Il y en a déjà 102 sur tout le territoire. Il s'agit de policiers spécialement formés aux violences intrafamiliales. Après le féminicide de Mérignac, se pose aussi la question du casier judiciaire des policiers au contact avec le public. Le policier qui avait reçu Shaïnès Daoud venait lui-même d'être condamné pour violence conjugale et il avait très mal pris sa plainte, ce qui avait conduit à une mauvaise évaluation du danger. Gérald Darmanin assure que les policiers condamnés seront écartés du contact avec le public et qu'ils feront l'objet d'un conseil de discipline dans un délai de 3 mois. Une pétition qui demande le recensement du nombre de policiers et gendarmes violents envers leur conjointe a déjà recueilli près de 25 000 signatures.
Merci Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Les associations annoncent pour leur part qu'elles seront vigilantes. C'est le cas d'Anne-Cécile Maillefer, la présidente de la Fondation des femmes, espère que le ministre de l'Intérieur ne se livre pas simplement à un effet d'annonce.
On est sur un yo-yo des priorités en matière de violence conjugale, où en fait, pendant quelques mois, on est en haut de la pile, on voit que ça s'améliore, et puis après, on descend en bas de la pile. Et grâce à la mobilisation médiatique et des associations, on arrive à péniblement remonter au-delà de la pile, et surtout quand il y a des défaillances tellement graves que vraiment, là, l'image du ministre est écornée, donc il se sent un peu obligé de faire remonter au-delà de la pile. Mais ce yo-yo-là, il est extrêmement néfaste pour les femmes victimes. Il faut qu'on puisse leur promettre et que derrière ce soit suivi des faits, qu'elles seront toujours extrêmement bien accueillies et qu'elles seront toujours extrêmement bien écoutées et protégées. Il faut une clarté absolue, une transparence totale, non seulement pour le féminicide de Mérignac, mais pour tous les féminicides qui suivent. Parce que celui de Mérignac, il y a eu de l'attention médiatique et nous, les associations, on a pu prendre le temps de bien regarder dans le détail, mais il y en a 69. 69 autres féminicides depuis le 1er janvier. Donc il faudrait qu'on s'attarde sur chacun d'entre eux, qu'on relève pour chacun d'entre eux en toute transparence les défaillances et qu'on les corrige.
Oui, dans l'Aveyron, une femme de 48 ans a été tuée à l'arme blanche. Son conjoint, le principal suspect, aurait tenté de se suicider. Les faits se sont produits sur un chemin de la commune de Calmont, dans l'Aveyron donc. Avis au Sherlock Holmes, la police technique et scientifique recrute. Le guichet d'inscription au nouveau concours de recrutement est ouvert à partir de ce lundi. Vous avez jusqu'au 10 septembre pour vous inscrire sur le site devenirpolicier.fr. 94 postes sont ouverts. Pour se présenter, il faut avoir le bac. Les forêts du sud-est de la France sous haute surveillance, sous l'effet conjugué de la sécheresse et des vents forts, le risque d'incendie atteint son niveau le plus élevé dans les forêts du Var, des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône. Deux départs de feu ont déjà été repérés sur la Côte d'Azur. 8 massifs forestiers du Var sont classés en risque très sévère. Leur accès est donc strictement interdit, explique Florence Dossetti, la porte-parole des pompiers du Var.
Bien entendu, aucune promenade à l'intérieur de ces massifs. Il est interdit de circuler sur les voies également avec un panneau B0. C'est des panneaux blancs cerclés de rouge, donc toutes ces pistes-là sont interdites à la circulation également. Et bien entendu, les conseils d'usage d'interdiction de jeter les mégots, interdiction d'allumer un feu, pas de camping sauvage et bien sûr, interdiction de fumer à proximité des massifs. Là, on est vraiment dans des conditions un peu explosives en cas de départ de feu. 9 feux sur 10 sont d'origine humaine. Nous appelons la population à la plus grande vigilance et nous rappelons qu'en cas de départ de feu, on se signale en contactant le 18 ou le 112 et on se localise le plus précisément possible afin que les moyens terrestres et aériens puissent se diriger sur la zone impactée le plus rapidement possible, sachant que notre devise, c'est frapper vite et fort.
Florent Dossetti, le porte-parole des pompiers du Var, joint par Caroline Baudry pour Europe 1. Au même moment, vigilance maximale dans la lutte incendie, donc alors que le sud de l'Europe s'embrase, plusieurs régions de Grèce, d'Italie, d'Espagne sont ravagées par des incendies, des feux qui ont fait au moins 7 morts en Turquie où des villages ont été évacués. Des touristes présents en Turquie ont dû fuir par bateau face à la menace des flammes. Un double heureux événement la nuit dernière au zoo de Beauval dans le Loir-et-Cher. La femelle panda Wan Wan a donné naissance à des petits jumeaux. Le premier pesait 149 grammes seulement. Les deux petits pandas sont en bonne santé. La nature prend son temps, mais l'état civil aussi. Les deux nouveau-nés n'auront des noms définitifs que dans 100 jours. Rodolphe Delors, le directeur général du zoo de Beauval, nous fait les premières présentations.
Ce sont des toutes petites créatures adorables, sans poils. Ce sont pratiquement des embryons, finalement, après seulement une cinquantaine de jours de gestation. Les soigneurs français comme les soigneurs chinois retirent les bébés un par un en alternance et passent en couveuse pour que la maman puisse se reposer et surtout qu'elle en fasse têter un seuil à la fois. Parce qu'ils têtent leur maman, ce sont des mammifères bien sûr, mais les pandas ont énormément de mal à élever deux bébés. À état naturel, lorsqu'il naît deux bébés, généralement la maman en choisit un. Elle choisit le plus fort et elle n'élève que le plus fort et le plus faible meurt naturellement. Eh bien nous mettons toutes les chances de son côté pour aider dans sa mission de maman, pour élever et mener à leur terme ces deux petites filles.
Comment vous expliquez finalement la fascination qu'ils exercent auprès du grand public?
Il n'y a pas de symbole aussi fort. Je ne connais pas un animal qui soit un symbole à ce point-là dans un pays, comme le panda en Chine. Souvent, nos visiteurs pleurent d'émotion en voyant pour la première fois cet animal extraordinaire, ce chat ours. Il y a vraiment des gens qui sont fascinés par ces animaux incroyables que sont les pandas géants.
Voilà les petits chats ours sous les yeux de Rodolphe Delors ce matin sur Europe 1. Direction donc le zoo de Beauval si vous voulez vous laisser attendrir par ces petits pandas jumeaux. Il le dit lui-même, c'est un peu sa médaille d'or olympique. Esteban Ocon a remporté son premier Grand Prix de Formule 1 ce dimanche en Hongrie, qui plus est sur une voiture française. À seulement 24 ans, Axel May, il marque déjà l'histoire du sport automobile français.
Oui, oui, c'est simple. La dernière victoire d'un Français sur une voiture française, ça remonte à 1996 avec Olivier Panis à Monaco sous la pluie sur une Ligier, mais à bord d'une Renault Alpine étant le nouveau nom de l'écurie en F1. À bord d'une Renault, là, ça nous renvoie aux années 80, époque faste hein, pour la Formule 1 tricolore avec Prost, Jabouille, Arnoux. C'est dire à quel point ce succès d'Esteban Ocon hier en Hongrie s'inscrit dans l'histoire du sport automobile français. Certes, les circonstances de course l'ont aidé, un grand prix un peu fou marqué par un carambolage dès le départ. Il n'empêche, le Normand et sa silhouette filiforme, visage toujours souriant, a passé 60 tours en tête. Laurent Rossi, le patron de l'écurie Alpine, était l'invité de la matinale de Lionel Gougeot.
On reste absolument réaliste, c'est une fantastique victoire qui fait plaisir et qui récompense le travail acharné. Mais la voiture ne s'est pas transformée. On a une monoplace qui vaut ce qu'elle vaut. On va continuer à faire un très bon travail, toute l'équipe, pour aller défendre cette cinquième place. Et on se battra à chaque fois qu'il y aura une opportunité. Tout le monde sait maintenant qu'Alpine sera là pour la saisir.
Alpine qui est effectivement cinquième au classement général constructeur. Et à moyen terme, hein, l'écurie française espère battre les top écuries, que sont notamment Mercedes et Red Bull. En attendant, Esteban Ocon va pouvoir profiter chez lui de cette victoire en Normandie. Hein, et profiter de la trêve estivale. Prochain Grand Prix en Belgique à Spa-Francorchamps le 29 août.
Le rendez-vous est pris. Axel May du service des sports d'Europe 1. Merci Axel. La tendance météo de ce lundi 2 août avec vous Valérie Darmon. Bonjour.
Bonjour Alexandre. Alors toujours contrasté dans le même sens malheureusement. Hein. Sud-ouest, Occitanie jusqu'en moyenne vallée du Rhône, PACA et Corse. Vous profitez d'un temps toujours ensoleillé. Aquitaine, Limousin, Auvergne, nord de Rhône-Alpes, le ciel est plus changeant entre nuages et éclaircies quasi moitié-moitié. Les averses se multiplient en revanche, tournant même à l'orage cet après-midi de la Normandie, du bassin parisien des Hauts-de-France au Grand Est jusqu'au nord de la Bourgogne et de la Franche-Comté.
Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve à 13h pour un point complet sur Europe 1.
Europe Midi, Alexandre Lemaire.
Restez avec nous dans Europe Midi. Dans un court instant, je recevrai Jacques-Charles Fombonne, le président de la Société Protectrice des Animaux, la SPA, alors que le nombre d'abandons d'animaux de compagnie explose cet été. À tout de suite.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Alexandre Lemaire.
Ce week-end était classé noir sur les routes. Vous êtes très nombreux à avoir rejoint votre destination de vacances. Dans l'ombre de ces réjouissances, les associations de protection des animaux font face à une vague massive d'abandons de chats et de chiens en particulier. Cet été, plus encore que les années précédentes, des refuges sont arrivés à saturation de leur capacité d'accueil. La SPA y voit très clairement un contre-coup de la pandémie de Covid et des confinements successifs. Pour en parler sur Europe 1, je reçois Jacques-Charles Fombonne. Bonjour.
Bonjour Monsieur le Maire.
Vous êtes le président de la SPA, la Société Protectrice des Animaux. Jacques-Charles Fombonne, les abandons de chats et de chiens atteignent des records cet été. Est-ce qu'on est en face d'une situation inédite ?
Oui, malheureusement, même si c'est un discours que vos auditeurs entendent tous les ans, on a deux phénomènes cette année. Le premier, c'est que d'habitude, on est vraiment à saturation à cette période de l'année, c'est-à-dire après le week-end de chasse et croisée de juillet et août. Cette année, on a été à saturation pratiquement début juin, comme si les abandons s'étaient un petit peu précipités après le confinement. Et puis, on a une petite augmentation de 7%, mais c'est vrai que 5, 6, 7% tous les ans, ça finit par faire beaucoup. On a surtout, et c'est sans doute l'effet du confinement, une explosion du nombre des chats. C'est presque 24-25%. On pense que ça vient de l'absence de stérilisation des deux printemps précédents. Hein, vous savez, c'est un chiffre que je cite souvent, mais on dit qu'un couple de chats en 4 ans peut avoir jusqu'à 20 000 descendants. Comme les associations, les communes n'ont pas pu sortir pour faire les stérilisations des chats libres, ça explique certainement cette augmentation. Alors il y a deux autres choses qu'il faut dire également, c'est que l'on a une explosion du nombre des petits animaux, ce que l'on appelle les NAC, vous savez, les nouveaux animaux de compagnie. Oui. Voilà, c'est principalement des lapins, et là très clairement, ce sont des animaux que l'on achète, dans les animaleries, d'où notre combat contre la vente des animaux dans les animaleries, parce que les gens ont pris ça comme des jouets, très clairement, et puis à la fin du confinement, bah, ils les ont abandonnés ou ils nous les ont apportés.
Oui, ça incite vraiment à l'achat compulsif, en fait, voilà, l'achat impulsif.
C'est l'achat compulsif comme un jouet, alors qu'on prône l'adoption responsable, on prône la réflexion préalable à la prise d'un animal chez un éleveur ou dans un refuge. Très clairement, c'est pour nous une des conséquences tout à fait directes de l'enfermement et du confinement.
Oui. Les responsables de refuge de la SPA font tous le même constat, hein, je crois. On récupère, disent-ils, les animaux, vous le disiez, hein, adoptés pendant le confinement. Est-ce que ça veut dire que trop de foyers ont adopté sans réfléchir, sans se poser les bonnes questions sur l'engagement que ça implique d'avoir un animal à la maison, surtout à l'approche de la période des vacances ?
Oui, très clairement. Nous, dans nos refuges, lorsque nous recevons des gens qui veulent prendre un animal, nous leur demandons, même si c'est au départ une démarche extrêmement positive, on leur demande de venir avec l'ensemble de la famille, on leur demande de s'interroger sur leurs revenus, sur la possibilité qu'ils auront de nourrir, de faire soigner l'animal, sur la configuration de leur maison, leur appartement, parce que c'est tout bêtement une question de place, de nuisance. Si vous avez un chien qui aboie toute la journée dans un petit appartement, ça va être un critère facilitateur de l'abandon, choses qui ne se font pas lorsque vous achetez un animal dans un magasin, non pas chez un éleveur. Les éleveurs sont généralement des gens sérieux et qui ne vont vous donner l'animal qu'après vous avoir interrogé. Et puis évidemment, si vous l'achetez sur Internet, ce qui est le bout du bout de la maltraitance animale, évidemment, comme vous l'imaginez.
Bien sûr. Jacques-Charles Fonbonne, que répondez-vous aux personnes qui viennent dans vos refuges et qui souhaitent se séparer d'un animal de compagnie ? Je sais que ce n'est pas toujours le cas, beaucoup sont abandonnés sur le bord des routes, mais à ces personnes-là, que répondez-vous ? Est-ce que vous pouvez encore accueillir des animaux dans les refuges cet été ?
Alors, on se débrouille. Vous savez, les refuges sont le bout de la chaîne de l'abandon, c'est-à-dire que les animaux qui sont divagants sont recueillis, sont capturés plus exactement par les fourrières municipales, qui les gardent une huitaine de jours pour que les propriétaires se manifestent éventuellement et qui ensuite les donnent à des associations, singulièrement évidemment la Société protectrice des animaux. On se débrouille toujours. Jusqu'à présent, on n'a jamais refusé des animaux parce que nous refusons l'euthanasie, mais vous comprenez bien que les fourrières qui sont des organismes municipaux vont euthanasier les animaux s'ils ne peuvent pas les placer dans des familles ou dans des associations. Donc on se débrouille, on a des familles d'accueil, on pousse un peu les murs de façon à les garder. Mais pour répondre à votre question, on préfère que les gens viennent nous les abandonner. La consigne, c'est de ne jamais faire la morale aux gens. Ça sert à rien, ça les culpabilise et le résultat, c'est qu'ils vont les abandonner de façon sauvage et d'une façon qui les condamne à mort irrémédiablement. C'est pour ça d'ailleurs que l'abandon est un délit puni de peine de prison et l'infraction la plus grave. Donc, si vous ne pouvez pas garder vos animaux, si vous n'avez pas réfléchi, si vous vous êtes embarqué dans une situation qui vous dépasse, amenez-les nous. Nous, on les soignera, on les gardera le temps qu'il faut et puis on les donnera à l'adoption dès qu'une famille se présentera. Et on n'est pas là pour juger les gens, on n'est pas là pour leur faire des leçons. On est là, depuis 150 ans, la mission de la Société protectrice des animaux qui est celle de protéger les animaux. Alors ça passe par l'éducation des gens, évidemment, mais concrètement, au jour le jour, le matin quand on se réveille, c'est de prendre des animaux et d'essayer de les sauver.
Vous parliez du système D, en fait, qui est à l'œuvre malheureusement dans les refuges. Concrètement, comment vous prenez en charge les animaux abandonnés, Jacques-Charles Fonbonne ? Combien de temps, pour être très clair, pouvez-vous les garder ?
Alors, on va les garder, je vais vous faire une réponse assez générale, on va les garder le temps nécessaire à leur adoption. Mmh. On n'euthanasie pas les animaux. On va donc les garder quelques heures si une famille se présente et veut un animal qui a été pris très récemment. Et puis, on va pouvoir les garder plusieurs mois, malheureusement plusieurs années si on a du mal à les placer. On fait quelque chose qui est assez efficace, que j'ai découvert en prenant la présidence, c'est qu'on a des équipes de transfèrement. Et on se rend compte, c'est quelque chose que j'explique pas, mais qui marche tout à fait bien, qu'on a des animaux, on a des chiens qui, par exemple, ne vont intéresser personne dans un refuge du sud-ouest ou du sud-est, que l'on va transférer dans un autre refuge, dans une autre région, et qui vont être adoptés en quelques jours, en quelques semaines. Voilà, c'est assez curieux. Est-ce que ça tient aux conditions d'hébergement des animaux ? Vous savez que les conditions sont assez stressantes. Hein. On a engagé à la SPA un très grand projet immobilier.
C'est un déchirement dans les refuges. C'est jamais une partie de plaisir lorsqu'on qu'on souhaite adopter
non,
un animal.
Non, c'est jamais une partie de plaisir. Et justement, on veut maintenant créer des nouveaux refuges dans lesquels les gens viendront avec leur famille, avec leurs enfants, avec leurs animaux éventuellement, pique-niquer, voir des animaux, apprendre des choses et éventuellement adopter s'ils le souhaitent, mais sans que ce soit quelque chose qui est quand même anxiogène que d'aller voir des animaux qui sont enfermés. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viendraient prendre des animaux et pour lesquels c'est un frein en se disant ça va être quelque chose de très émotionnant et j'ai pas le courage d'y aller.
Oui, je lisais ce chiffre assez frappant, hein, Jacques-Charles Fonbonne. 60% des abandons d'animaux de compagnie, chats, chiens, ont lieu sur les aires d'autoroute au départ des vacances, en clair.
Alors c'est possible, on en a, mais si vous avez pris l'autoroute ces derniers jours, vous voyez des chiens, vous voyez des chats qui courent le long de la bande d'arrêt d'urgence parce qu'ils ont été abandonnés. Ce dont on est sûr, c'est que l'on a deux fois plus d'abandons pendant les périodes estivales que pour le reste de l'année sur une moyenne lissée des 10 autres mois. C'est vrai que c'est facile d'abandonner, cela étant, c'est l'ancien gendarme qui vous parle. Sur les aires d'autoroute, il y a souvent des systèmes de vidéo, on est en voiture, on a une plaque d'immatriculation, donc écoutez, c'est un risque et comme je le disais tout à l'heure, c'est une infraction qui est punie de 2 ans de prison, de 30 000 euros d'amende, tribunal correctionnel, inscription au casier judiciaire, donc plus d'accès à la fonction publique, plus d'accès aux professions réglementées. Maintenant, voilà, comment peut-on abandonner un animal avec lequel on a passé quelques mois, quelques années? Je veux dire, je laisse à la responsabilité de chacun, à l'introspection de chacun de se poser la question.
Vous voulez peut-être lancer un appel, Jacques-Charles Fonbonne, à tout couple, à tout foyer qui se dirigerait vers l'adoption d'un animal. Il faut peut-être se poser les bonnes questions justement avant de franchir le pas.
Oui. Alors déjà, si on est au bord de l'abandon, se poser les bonnes questions, trouver une famille, trouver un voisin, consacrer un peu d'argent pour une pension, changer éventuellement de camping ou d'hôtel dans lequel on avait prévu d'aller et qui ne peut pas recevoir les animaux. Et puis, surtout, parce que là c'est très en amont, mais c'est très efficace, se poser la question. Dans nos refuges, les gens vont guider les familles sur leur choix, vont leur donner de l'animal qui va le mieux correspondre à leur envie et qui va le mieux correspondre aux besoins de l'animal. Généralement, les gens nous écoutent toujours, ça se passe bien. Et voilà, qu'est-ce que je vais faire dans plusieurs mois? Où je vais habiter dans plusieurs années? Sans évidemment se projeter sur des décennies. Mais les vacances prochaines, l'argent dont je vais disposer, l'agrandissement de la famille, le nombre de pièces dans mon appartement, la possibilité que j'ai de sortir mon chien, de m'occuper de mon chat plusieurs heures par jour. Un chien, ça a besoin d'environ 5 heures d'interactivité par jour. Jouer avec une balle, mordiller quelque chose, jouer avec son maître. Ça veut dire qu'il faut être là, parce que sinon l'animal va s'angoisser. Il va aboyer. S'il aboie, les voisins vont être dérangés. On a ensuite tout un tas d'accumulations de facteurs qui vont évidemment faciliter l'abandon.
Merci beaucoup Jacques-Charles Fonbonne, président de la Société Protectrice des Animaux, aujourd'hui dans Europe Midi.
Europe Midi, Alexandre Lemaire.
Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Dans un instant, Club Tokyo avec Lionel Rosso et déjà 2 médailles. Une médaille d'or en tir avec Jean Quicampoix et puis une médaille également en équitation, médaille de bronze.